Chapitre 23. Noël dans la salle spéciale. Était-ce pour cela que Dumbledore ne voulait plus croiser le regard de Harry? S'attendait-il à voir Voldemort le fixer à travers ses yeux? Craignait-il que le vert de ses iris vire soudain au rouge et que ses pupilles se réduisent à deux fentes comme celles des chats? Harry n'était pas prêt d'oublier la face de serpent de Voldemort qui s'était incrustée à l'arrière de la tête du professeur Quirrell, et il passa la main derrière sa propre tête en se demandant ce qu'il ressentirait si les traits de Voldemort se dessinaient soudain sur son crâne. Il se sentait sale, contaminé, comme s'il était porteur d'un germe mortel. Sur le chemin du retour, il s'estima indigne de s'asseoir dans le métro en compagnie de gens innocents, sains, dont le corps et l'esprit ne portaient pas la souillure de Voldemort. Il n'avait pas seulement vu le serpent, il avait été le serpent. Il le savait à présent. Une pensée terrifiante lui vint alors à l'esprit. Un souvenir qui remontait à la surface et lui donnait soudain l'impression que ses entrailles elles-mêmes ondulaient et se tortillaient comme des serpents. Il ne cherche pas seulement à recruter des partisans. Il a également d'autres projets, des choses qu'il ne peut obtenir que dans le plus grand secret. Une arme, par exemple. Une arme nouvelle dont il ne disposait pas la dernière fois. « Je suis cette arme », pensa Harry. Et c'était comme si un poison se répandait dans ses veines, lui glaçait le sang. Il sentit son corps se couvrir de sueur tandis qu'il oscillait sur son siège au rythme de la rame qui s'enfonçait dans le tunnel obscur. « Je suis celui que Voldemort essaye d'utiliser. Voilà pourquoi ils me suivent partout où je vais. Ce n'est pas pour ma protection, c'est pour celle des autres. Mais ça n'a pas marché. Ils ne peuvent pas me surveiller sans cesse quand je suis à Poudlard. » Et c'est moi qui ai attaqué M. Weasley la nuit dernière. Voldemort m'a obligé à le faire, et peut-être qu'en cet instant même, il est en moi, peut-être qu'il écoute chacune de mes pensées.
« Ça va, Harry, mon chéri ?»
murmura Mrs. Weasley. Elle s'était penchée devant Ginny et lui parlait à l'oreille pendant que la rame poursuivait son chemin dans un fracas métallique.
« Tu n'as pas l'air très bien, j'espère que tu n'es pas malade. »
Tous les regards étaient tournés vers lui. Il hocha violemment la tête en signe de dénégation et fixa les yeux sur une affichette qui vantait les services d'une compagnie d'assurance.
« Harry, mon chéri, tu es sûr que ça va ?»
insista Mrs. Weasley d'une voix inquiète. Ils étaient de retour à présent Square Grimord et contournaient la pelouse en friche qui occupait le centre de la place.
« Tu parais si pâle. Tu as dormi ce matin ?» « Tu vas monter te coucher tout de suite, comme ça tu pourras te reposer 2 heures avant le dîner, d'accord ?»
Il acquiesça d'un signe de tête. Elle lui offrait une excuse toute faite pour éviter de parler aux autres, ce qui était précisément son plus cher désir. Dès que Mrs. Weasley eut ouvert la porte d'entrée, il passa tout droit devant le porte-parapluie en jambes de troll et monta l'escalier jusqu'à la chambre. Il se mit alors à faire les 100 pas dans la pièce, entre les 2 lits et le cadre vide de Phineas Nigellus, la tête bouillonnante de questions et d'hypothèses plus terrifiantes que jamais. Comment avait-il pu se transformer en serpent? Peut-être était-il un animagus? Non, c'était impossible, il le saurait. Peut-être Voldemort en était-il un? Oui, songea Harry, tout se tient. C'est lui qui se transforme en serpent. Et quand Voldemort prend possession de moi, alors nous nous transformons tous les deux. Ça n'explique toujours pas, cependant, comment j'ai pu aller à Londres puis revenir dans mon lit en l'espace de 5 minutes. Mais Voldemort est sans doute le plus puissant sorcier du monde, en dehors de Dumbledore. Ça ne doit pas être très difficile pour lui de transporter quelqu'un aussi rapidement. Puis, dans un sursaut de panique qui le frappa comme un coup de poignard, il pensa... Tout cela est complètement fou. Si Voldemort a pris possession de moi, je suis en train de lui donner, en ce moment même, une vue parfaitement claire du quartier général de l'Ordre du Phénix. Il saura ainsi qui fait partie de l'Ordre et où se trouve Sirius. Et en plus, j'ai entendu des tas de choses que je n'aurais jamais dû savoir. Tout ce que Sirius m'a dit le premier soir où je suis arrivé ici.
Il n'y avait plus qu'une seule possibilité. Quitter le Square Grimord à l'instant même.
Il irait passer Noël à Poudlard sans les autres, ce qui garantirait leur sécurité au moins pendant les vacances. Mais non, ça n'était pas la bonne solution. Il y avait encore plein de gens à Poudlard qu'il pourrait blesser ou mutiler. Et si la prochaine victime était Simus, Dean ou Neville? Il cessa de faire les 100 pas et s'arrêta devant la toile vide de Phineas Nigellus. Harry eut soudain l'impression d'avoir du plomb au creux de l'estomac. Il n'y avait plus d'autre choix. Il devait retourner à Private Drive, se couper entièrement du monde des sorciers. Si c'était vraiment ce qu'il fallait faire, il était inutile de rester ici plus longtemps. Essayant de toutes ses forces de ne pas imaginer ce que serait la réaction des Dursley lorsqu'ils le trouveraient devant leur porte 6 mois avant la date prévue, il s'avança à grands pas vers sa grosse valise, enferma le couvercle d'un coup sec et verrouilla la serrure. Puis il jeta un regard autour de lui, cherchant machinalement Edwige, et se rappela qu'elle était restée à Poudlard. Au moins, il n'aurait pas apporté sa cage. Il prit sa valise par l'une des poignées et la traîna derrière lui en direction de la porte lorsqu'une voix sarcastique s'éleva soudain.
« Alors, on prend la fuite ?»
Il se retourna. Phineas Nigellus était apparu sur sa toile, adossé contre le cadre. Il regardait Harry d'un air amusé.
« Non, je ne prends pas la fuite !»
répliqua Harry d'un ton brusque en continuant de tirer sa valise.
« Je croyais, reprit Phineas Nigellus en caressant sa barbe, qu'appartenir à la maison Gryffondor signifiait qu'on était courageux. J'ai l'impression que vous auriez été beaucoup plus à votre place dans ma propre maison, car nous les Serpentards, nous ne manquons pas certes de courage, mais nous ne sommes pas stupides. Par exemple, quand on nous donne le choix, nous préférons toujours sauver notre peau. »
« Ce n'est pas ma peau que je sauve, » répondit laconiquement Harry.
Il avait traîné sa valise jusqu'à la porte, là où le tapis était gondolé et mangé au mythe plus encore que dans le reste de la pièce.
« Ah, je vois !»
dit Phineas Nigellus qui continuait de se caresser la barbe.
« Il ne s'agit pas d'une fuite inspirée par la Quardis, hein, mais d'une attitude pleine de noblesse. Hein. »
Harry ne lui accorda aucune attention. Il avait la main sur la poignée de la porte lorsque Phineas Nigellus ajouta d'un ton nonchalant
« J'ai un message pour vous de la part de Dumbledore. »
Harry fit volte-face.
« Qu'est-ce que c'est ?»«
Restez où vous êtes. »
« Je n'ai pas bougé, » répliqua Harry, la main toujours sur la poignée de la porte. « Alors c'est quoi ce message ?»«
Je viens de vous le donner, jeune sot, » répondit Phineas Nigellus d'une voix doucereuse. « Dumbledore vous dit « restez où vous êtes. »
Et pourquoi ?» demanda Harry avec impatience en laissant tomber sa valise. « Pourquoi veut-il que je reste? Qu'est-ce qu'il a dit d'autre ?»«
Rien du tout, »
répondit Phineas Nigellus en haussant un sourcil noir et fin, comme s'il trouvait Harry impertinent. La colère de Harry remonta à la surface comme un serpent qui se dresse soudain parmi les hautes herbes. Il était épuisé, son esprit s'égarait au-delà de toute mesure. Au cours des 12 dernières heures, la terreur, le soulagement, puis à nouveau la terreur s'étaient succédé en lui, et pourtant, Dumbledore ne voulait toujours pas lui parler.
« Alors c'est tout !»
lança-t-il d'une voix forte.
« Restez où vous êtes ! C'est aussi tout ce qu'on a trouvé à me dire après l'attaque des Détraqueurs. Tiens-toi tranquille, pendant que les adultes s'occupent des choses sérieuses. » On ne prendra pas la peine de te dire quoi que ce soit parce que ton minuscule petit cerveau ne saurait pas comment réagir.
Voilà précisément pourquoi j'ai toujours détesté être professeur,
répliqua Phineas Nigellus d'une voix encore plus forte que celle de Harry.
Les jeunes gens ont toujours l'infernale certitude d'avoir raison en toutes choses. « Vous est-il jamais venu à l'esprit, mon pauvre petit jacasseur tout boursouflé d'importance, que le directeur de Poudlard pourrait avoir une excellente raison de ne pas vous confier dans leurs plus infimes détails les projets qu'il a en tête ? Avez-vous jamais pris le temps de remarquer que malgré votre sentiment d'être si durement traité, vous n'avez jamais eu à souffrir d'avoir suivi les ordres de Dumbledore ? Non, non, comme tous les jeunes gens, vous êtes convaincus que vous êtes seul à ressentir, seul à réfléchir, que vous seul savez reconnaître le danger, que vous seul êtes assez intelligent pour comprendre ce que le Seigneur des ténèbres prépare.
Il prépare quelque chose qui me concerne, alors ?
Demanda précipitamment Harry.
Ai-je dit cela ?
Répondit Phineas Nigellus en contemplant ses gants de soie d'un air nonchalant.
« Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai autre chose à faire que prêter l'oreille aux tourments d'un adolescent. Je vous souhaite le bonjour. »
Et il sortit du tableau.
« Très bien. Allez-vous-en »
s'écria Harry en s'adressant au cadre vide.
« Et inutile de remercier Dumbledore, il n'y a aucune raison pour ça !»
La toile resta silencieuse. Rageur, Harry ramena sa valise au pied de son lit, puis se jeta à plat ventre sur les couvertures, mangé au mythe, les yeux fermés, le corps lourd et douloureux. Il avait l'impression d'avoir parcouru des kilomètres et des kilomètres. Il lui semblait impossible que, moins de 24 heures plus tôt, Cho Chang se soit approché de lui, sous la branche de gui. Il était si fatigué. Il avait peur de dormir. Mais il ne savait pas combien de temps encore il pourrait lutter contre le sommeil. Dumbledore lui avait dit de rester. Cela devait signifier qu'il avait le droit de dormir. Mais la peur était là quand même. Si quelque chose de semblable se produisait à nouveau. Il s'enfonça peu à peu dans l'obscurité. C'était comme si un film dans sa tête l'avait attendu pour commencer. Il marchait dans un couloir désert, en direction d'une porte lisse et noire, entre des murs de pierre brute, éclairés par des torches. Sur la gauche, un passage ouvert donnait sur une volée de marches qui descendait. Il atteignit la porte, mais ne parvenait pas à l'ouvrir. Il restait là, à la contempler avec une envie irrépressible d'entrer. Quelque chose qu'il désirait plus que tout au monde se trouvait derrière cette porte. Quelque chose qui dépassait tous ses rêves. Si seulement sa cicatrice cessait de le picoter. Il pourrait réfléchir plus clairement.
« Harry !» dit la voix très, très lointaine de Ron. « Maman dit que le dîner est prêt, mais qu'elle te gardera quelque chose si tu veux rester couché. »
Harry ouvrit les yeux, mais Ron avait déjà quitté la pièce. « Il ne veut pas rester seul avec moi, » pensa-t-il. Pas après avoir entendu ce que Maugrey a dit. Il se doutait que plus personne ne voulait se trouver en sa présence maintenant qu'il savait ce qu'il y avait en lui. Il ne descendrait pas dîner. Il ne leur infligerait pas sa compagnie. Il se tourna de l'autre côté et retomba bientôt dans le sommeil. Il se réveilla beaucoup plus tard, aux premières heures du jour, rongé par la faim. Ron ronflait dans le lit d'à côté. Plissant les yeux pour scruter la pénombre, Harry vit la silhouette sombre de Phineas Nigellus, qui était revenu dans son portrait, et il pensa que Dumbledore l'avait sans doute chargé de le surveiller au cas où il attaquerait quelqu'un d'autre. L'impression de souillure s'intensifia. Il regrettait presque d'avoir obéi à Dumbledore. Si telle devait être sa vie désormais dans la maison du Square Grimmauld, peut-être qu'après tout, il serait mieux à Private Drive. Tout le monde, à part lui, passa la matinée à accrocher des décorations de Noël. Harry ne se souvenait pas d'avoir jamais vu Sirius d'aussi bonne humeur. Il allait même jusqu'à chanter des cantiques, apparemment ravi d'avoir de la compagnie pour les fêtes. Harry entendait sa voix filtrer à travers le parquet dans le salon glacé où il était assis tout seul, regardant par la fenêtre le ciel de plus en plus blanc qui annonçait la neige. Harry éprouvait une sorte de plaisir sauvage à donner aux autres l'occasion de parler de lui comme il devait sûrement le faire. Quand il entendit Mrs. Weasley l'appeler doucement dans l'escalier à l'heure du déjeuner, il ne lui répondit pas et alla se réfugier plus haut dans les étages. Vers 6 heures du soir, la sonnette de la porte d'entrée retentit et Mrs. Black recommença à hurler. Se doutant que Mondingus ou quelque autre membre de l'ordre était venu en visite, il se cala plus confortablement contre le mur dans la pièce où Buck était enfermé et où lui-même avait décidé de se cacher. Il essayait d'ignorer sa propre faim tandis qu'il donnait à l'hippogriffe des rats morts à manger. Quelques minutes plus tard, il sursauta légèrement en entendant quelqu'un frapper à grands coups contre la porte.
Je sais que tu es là,
dit la voix d'Hermione.
Tu veux bien sortir? J'ai hâte de parler.
Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda Harry en ouvrant la porte. Buck s'était remis à gratter la paille répandue sur le sol, à la recherche des morceaux de rat qui auraient pu lui échapper.
Je croyais que tu étais parti faire du ski avec tes parents.
Pour t'avouer la vérité, je n'aime pas vraiment le ski,
répondit Hermione.
Alors je suis venue passer Noël ici.
Elle avait de la neige dans les cheveux et ses joues étaient rosies par le froid.
Mais ne le répète pas à Ron. Je lui ai dit que le ski était un sport merveilleux parce qu'il n'arrêtait pas d'en rire. Mes parents sont un peu déçus, mais je leur ai expliqué que tous ceux qui préparent sérieusement leurs examens restent à Poudlard pour travailler. Et comme ils veulent que je réussisse, ils comprendront. « Bon, maintenant, allons dans ta chambre, » ajouta-t-elle d'un ton vif. « La mère de Ron y a allumé un feu et elle a apporté des sandwichs. »
Harry l'a suivi au deuxième étage. Lorsqu'il entra dans la chambre, il fut surpris d'y voir à la fois Ron et Ginny qui l'attendaient assis sur le lit de Ron.
« Je suis arrivé par le magique au bus, »
dit Hermione d'un ton dégagé en retirant son blouson avant que Harry ait eu le temps de dire un mot.
« Dumbledore m'a raconté ce qui s'est passé hier matin, mais il a fallu que j'attende la fin officielle du trimestre pour pouvoir quitter Poudlard. Ombrage est déjà furieuse que vous ayez disparu sous son nez, même si Dumbledore lui a dit que M. Weasley était à Sainte-Mangouste et qu'il vous avait donné la permission de partir. « Bon, alors ?»
Elle s'assit à côté de Ginny et tous trois regardèrent Harry.
« Comment tu te sens ?»
demanda Hermione.
« Très bien, »
assura Harry avec raideur.
« Ne mens pas, Harry, »
répliqua-t-elle d'un ton agacé.
« Ron et Ginny m'ont dit que tu te cachais de tout le monde depuis ton retour de Sainte-Mangouste. »«
Ah, ils ont dit ça ?» Harry jeta à Ron et à Ginny un coup d'œil furieux. Ron baissa les yeux, mais Ginny ne manifesta aucun embarras.
« En tout cas, c'est ce que tu as fait, » dit-elle, « et tu ne nous regardes même plus. »«
C'est vous qui me regardez plus, » dit Harry avec colère.
« Peut-être que vous vous regardez à tour de rôle, mais jamais en même temps ?»
suggéra Hermione, les coins de sa bouche frémissant en un sourire.
« Très drôle !»
dit Harry d'un ton sec en se détournant.
« Arrête de jouer les incompris !»
lança Hermione.
« Écoute, les autres m'ont raconté ce que vous avez entendu l'autre jour avec les oreilles à rallonge. »«
Ah ouais ?» grogna Harry. Les mains enfoncées dans les poches, il regardait la neige tomber à gros flocons.
« Alors comme ça, vous parlez tous de moi ? Remarquez, je commence à m'y habituer. » « C'est à toi qu'on voulait parler, Harry, » dit Ginny. « Mais comme tu n'arrêtes pas de te cacher depuis qu'on est rentré... »«
Je n'avais pas envie qu'on me parle, » répondit-il de plus en plus irrité.
« C'est quand même un peu bête de ta part, » s'emporta Ginny. « La seule personne que tu connaisses qui ait jamais été possédée par tu sais qui, c'est moi. J'aurais pu te dire quel effet ça fait. »
Harry resta immobile, frappé par les paroles de Ginny. Puis il tourna sur lui-même pour la regarder en face.
« J'avais oublié, » dit-il. « T'as bien de la chance, » répliqua-t-elle avec froideur.
« Je suis désolé, » dit sincèrement Harry.
« Alors, vous pensez que je suis possédé, hein ?»« Est-ce que tu te souviens de tout ce que tu as fait ?»
demanda Ginny.
« Est-ce que tu as l'impression qu'il y a de longues périodes de blanc pendant lesquelles tu ne sais plus ce qui s'est passé ?»
Harry fouilla sa mémoire.
« Non, » dit-il. « Dans ce cas, tu sais qui ne t'a jamais possédé ?»
répondit simplement Ginny. « Quand il a pris possession de moi, il m'arrivait de ne plus savoir ce que j'avais fait pendant plusieurs heures d'affilée. Tout d'un coup, je me retrouvais quelque part sans savoir comment j'y étais arrivé. »
Harry osait à peine la croire.
Pourtant, presque malgré lui, il se sentait le cœur plus léger.
« Mais... quand j'ai rêvé de ton père et du serpent.
« Harry, tu as déjà eu des rêves dans ce genre-là avant ?»
l'interrompit Hermione.
« L'année dernière, tu voyais parfois ce que Voldemort était en train de faire. »
« C'était différent, » répondit Harry en hochant la tête.
« Cette fois-ci, j'étais à l'intérieur du serpent. C'est comme si c'était moi, le serpent. Et si Voldemort avait réussi à me transporter à Londres ?» « Un jour, »
dit Hermione au comble de l'exaspération,
« tu te décideras peut-être à lire l'histoire de Poudlard, et tu te souviendras alors qu'il est impossible de transplaner à Poudlard, ni pour y venir, ni pour en sortir. Même Voldemort ne parviendrait pas à t'arracher à ton dortoir, Harry. »
« Tu n'as pas quitté ton lit, mon vieux, » assura Ron. « Je t'ai vu t'agiter pendant au moins une minute dans ton sommeil avant qu'on arrive à te réveiller. » Harry se remit à faire les 100 pas dans la pièce. Il réfléchissait. Ce qu'il disait n'était pas seulement rassurant, c'était aussi logique. Sans même y penser, il prit un sandwich dans l'assiette posée sur le lit et le fourra avidement dans sa bouche.
« Finalement, ce n'est pas moi l'arme, » songea-t-il.
Il sentit une vague de bonheur et de soulagement le submerger, et il eut presque envie de chanter avec Sirius lorsque celui-ci, en passant devant leur porte pour aller voir Buck, entonna à plein poumon
« De bon matin, j'ai rencontré l'hippogriffe !»
Comment avait-il pu songer à passer Noël à Private Drive? Le plaisir qu'éprouvait Sirius à voir sa maison à nouveau pleine, et surtout Harry, de retour sous son toit, était contagieux. Ce n'était plus l'autre renfrogné qu'ils avaient connu l'été dernier. À présent, au contraire, ils semblaient décidés à ce qu'ils s'amusent autant, sinon plus, que s'ils étaient restés à Poudlard. Les jours suivants, avec leur aide, il travailla sans relâche au nettoyage et à la décoration, et lorsqu'ils allèrent se coucher à la veille de Noël, la maison était à peine reconnaissable. Sur les lustres ternis, des guirlandes or et argent entremêlées de branches de houx avaient remplacé les toiles d'araignées. Une neige magique scintillait en couches épaisses sur les tapis usés, et Mondingus s'était procuré un grand sapin de Noël décoré de fées vivantes qui cachait avantageusement l'arbre généalogique de la famille de Sirius. Même les têtes d'elfes empaillées sur le mur du hall portaient des barbes et des chapeaux de Père Noël. En se réveillant le matin de Noël, Harry trouva une pile de cadeaux au pied de son lit. Ron avait déjà ouvert la moitié de son propre tas, d'une taille appréciable. « Bonne pêche !» cette année, annonça-t-il à travers un nuage de papier froissé.
« Merci pour la boussole de balai, c'est une excellente idée, bien meilleure que celle d'Hermione. Elle m'a offert un planning de devoirs. »
Harry regarda ses cadeaux et trouva un paquet avec l'écriture d'Hermione. À lui aussi, elle avait donné un carnet qui ressemblait à un agenda. Mais chaque fois qu'il l'ouvrait, une voix forte lui assénait des conseils du genre
« Fais-le aujourd'hui si tu ne veux pas d'ennui !»
Sirius et Lupin lui avaient offert une série d'excellents livres intitulés « La défense magique appliquée et son usage contre les forces du mal », comportant des illustrations animées et en couleur de tous les contre-maléfices et ensorcellements décrits dans l'ouvrage. Harry feuilleta avidement le premier tome et vit tout de suite qu'il lui serait très utile pour le programme de l'AD. Hagrid lui avait envoyé un portefeuille recouvert de fourrure et muni de crocs destinés sans doute à dissuader les voleurs, mais qui empêchèrent Harry d'y mettre la moindre pièce sans risquer de se faire arracher un doigt. Tonk lui avait offert un modèle réduit d'éclairs de feu que Harry regarda voler autour de la pièce en regrettant de ne plus posséder la version grandeur nature. Ron lui avait donné une énorme boîte de dragées surprise de Bertie Crochu et le paquet de Monsieur et Mrs. Wesley contenait l'habituel pull-over tricoté main ainsi que quelques gâteaux de Noël. Enfin, Dobby lui avait fait parvenir une horrible peinture dont il soupçonnait l'elfe d'être l'auteur. Alors qu'il la retournait pour voir si elle ne serait pas mieux à l'envers, un craquement sonore retentit et Fred et George transplanèrent au pied de son lit.
« Joyeux Noël !» lança George. « Ne descendez pas tout de suite !»«
Et pourquoi ?» demanda Ron.
« Maman est encore en train de pleurer, » dit Fred d'un ton lourd. « Percy lui a renvoyé son pull de Noël. »«
Sans même un mot, » ajouta George. « Il n'a pas demandé de nouvelles de papa, il n'a pas été le voir, rien. »
On a essayé de la consoler, dit Fred, qui avait contourné le lit pour venir voir la peinture que Harry tenait entre ses mains. On lui a dit que Percy n'est qu'un énorme tas de crottes de rat.
Mais ça n'a pas marché, dit George, en prenant un choco-grenouille. Alors Lupin a pris le relais. Il vaut mieux lui laisser le temps de lui remonter le moral avant de descendre prendre le petit déjeuner.
Qu'est-ce que ça représente? Demanda Fred, le regard fixé sur le tableau de Dobby.
On dirait un gibbon avec deux gros yeux noirs.
« C'est Harry !» s'exclama George en montrant le dos de l'image. « C'est écrit derrière !»«
Très ressemblant !» commenta Fred avec un sourire. Harry lui jeta à la figure son nouvel agenda qui heurta le mur d'en face et tomba sur le sol en lançant d'un air joyeux.
« Si tu as bien travaillé, tu peux aller t'amuser !»
Ils se levèrent et s'habillèrent au son des joyeux Noël qui retentissaient dans toute la maison. Lorsqu'ils descendirent l'escalier, ils rencontrèrent Hermione.
« Merci pour le livre, Harry, » dit-elle d'un ton enjoué. « Il y avait une éternité que je la voulais, cette nouvelle théorie de la numérologie. Et ce parfum est très original. Merci, Ron. »«
Pas de quoi, » répondit Ron. « Et ça, c'est pour qui ?» ajouta-t-il en montrant d'un signe de tête le paquet soigneusement emballé qu'elle portait sous le bras.
« Pour créature, »
répondit Hermione d'un air radieux. « Il y a intérêt à ce que ce ne soit pas un vêtement, » la prévint Ron. « Tu te souviens de ce que Sirius a dit. Créature en sait trop, on ne peut pas se permettre de le libérer. »«
Ce ne sont pas des vêtements, »
assura Hermione.
« N'empêche que si j'avais mon mot à dire, je lui donnerais sûrement autre chose à se mettre que ce vieux chiffon crasseux. En fait, c'est un couvre-lit en patchwork. J'ai pensé que ça égayerait un peu sa chambre. »«
Quelle chambre ?»
demanda Harry en baissant la voix dans un murmure tandis qu'il passait devant le portrait de la mère de Sirius.
« Sirius dit que ce n'est pas vraiment une chambre, plutôt une espèce de tanière, »
répondit Hermione.
« Apparemment, il dort sous la chaudière dans le réduit à côté de la cuisine. »
Mrs. Weasley était la seule personne présente lorsqu'ils arrivèrent au sous-sol. Elle se tenait devant le fourneau et reniflait comme si elle avait eu un mauvais rhume. Elle leur souhaita un joyeux Noël et tout le monde évita de croiser son regard.
« Alors c'est là ?» La chambre de créature ?»
demanda Ron en s'avançant vers une porte délabrée située dans le coin opposé au garde-manger. Harry ne l'avait jamais vue ouverte.
« Oui, » dit Hermione, un peu mal à l'aise. « Je pense qu'il vaudrait mieux frapper. »
De ses doigts repliés, Ron donna quelques coups contre le panneau, mais il n'y eut pas de réponse. « Il rôde, sans doute, dans tous les étages, » dit-il. Et sans plus de cérémonie, Ron ouvrit la porte.
« Burk !»
Harry jeta un coup d'œil à l'intérieur. La plus grande partie du réduit était occupée par une immense chaudière d'un modèle très ancien. Dans l'espace d'une trentaine de centimètres de hauteur, située sous la tuyauterie, créature s'était aménagée une sorte de nid. Un mélange de chiffon assorti et de couverture malodorante était entassé sur le sol. Au milieu, un petit creux indiquait l'endroit où créature se pelotonnait chaque nuit pour dormir. On apercevait de ci de là, incrustés dans le tissu, des miettes de pain rassis et de vieux morceaux de fromage moisis. Dans le coin opposé brillaient de petits objets et des pièces de monnaie que créature avait sans doute réussi à sauver, à la manière d'une pie, du grand nettoyage de Sirius. Il était également parvenu à récupérer la photo de famille dans un cadre d'argent que Sirius avait jeté au cours de l'été. Le verre cassé ne dissuadait pas les petits personnages en noir et blanc de les regarder d'un air hautain. Notamment, et Harry en ressentit un coup à l'estomac, la femme brune aux paupières lourdes dont il avait vu le procès dans la pancine de Dumbledore, Bellatrix Lestrange. Apparemment, c'était le personnage préféré de créature. Il l'avait placé devant les autres et avait maladroitement réparé le verre à l'aide d'un morceau de sorcier collant, la bande adhésive magique.
« Je crois qu'il vaut mieux lui laisser son cadeau ici, »
dit Hermione. Elle déposa soigneusement le paquet au creux des chiffons et referma la porte en silence.
« Il le trouvera plus tard, ce sera très bien. »
Au moment où il sortait du réduit, Sirius, chargé d'une énorme dinde, émergea du garde-manger.
« Au fait, » dit-il. « Est-ce que quelqu'un a vu créature ces temps-ci ?»«
Pas depuis le soir où on est arrivé, » dit Harry, « quand tu lui as ordonné de sortir de la cuisine. »«
Oui, » dit Sirius, les sourcils froncés. « Je crois que moi aussi, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Il doit se cacher quelque part dans les étages. »«
Il ne serait pas parti définitivement, quand même, » dit Harry. « Quand tu lui as dit dehors, peut-être a-t-il cru que tu voulais le chasser de la maison ?»«
Non, non. » Les elfes ne peuvent pas partir tant qu'on ne leur a pas donné de vêtements. Ils sont liés à la maison de famille.
Ils peuvent la quitter s'ils le veulent vraiment, objecta Harry. C'est ce qu'a fait Dobby il y a 3 ans, quand il est parti de chez les Malfoy pour venir m'avertir. Après, il n'arrêtait pas de se punir lui-même, mais il a quand même réussi à s'absenter. Sirius parut un instant déconcerté, puis répondit
« Je le chercherai plus tard. » Je le trouverai sûrement là-haut en train de pleurer à chaudes larmes sur une vieille robe de ma mère ou je ne sais quoi d'autre. Ou alors peut-être qu'il est allé se réfugier dans le séchoir et qu'il y est mort.
Mais ne soyons pas trop optimistes.
Fred, George et Ron éclatèrent de rire, mais Hermione avait un air réprobateur. Après le déjeuner de Noël, les Weasley, Harry et Hermione avaient l'intention de rendre à nouveau visite à M. Weasley, escorté par Folleuil et Lupin. Mondingus arriva à temps pour manger un morceau de pudding de Noël et de génoise à la crème. Il avait emprunté une voiture pour l'occasion, car le métro ne fonctionnait pas le jour de Noël. La voiture, dont Harry doutait fort qu'elle soit arrivée là avec le consentement de son propriétaire, avait été agrandie à l'intérieur grâce au même sortilège qui avait permis de faire entrer 8 personnes et leurs bagages dans la vieille Ford Anglia des Weasley. Bien qu'elle fût de taille normale à l'extérieur, 10 passagers en plus de Mondingus, qui conduisait, pouvaient s'y installer confortablement. Mrs. Weasley hésita à y monter. Harry savait qu'elle était partagée entre sa méfiance à l'égard de Mondingus et sa répugnance à voyager sans l'aide de la magie. Mais finalement, le froid qui régnait au dehors et les exhortations de ses enfants finirent par triompher et elle s'installa de bonne grâce sur la banquette arrière entre Fred et Bill. Il y avait très peu de circulation, ce qui leur permit d'arriver rapidement à Sainte-Mangouste. Quelques sorcières et sorciers rôdaient furtivement dans la rue, par ailleurs déserte, pour se rendre à l'hôpital. Harry et les autres sortirent de la voiture et Mondingus partit se garer au coin de la rue pour les attendre. D'un pas nonchalant, ils se dirigèrent ensuite vers la vitrine où se trouvait le mannequin habillé de nylon vert, puis un par un, ils traversèrent la vitre. Le hall de réception dégageait une agréable atmosphère de fête. Les globes de cristal, qui éclairaient Sainte-Mangouste, avaient été colorés en rouge et or, se transformant ainsi en gigantesques boules de Noël lumineuses. Du houx était accroché au-dessus des portes et des sapins de Noël resplendissants, recouverts de givre et de neige magique, scintillaient dans tous les coins, chacun d'eux surmonté d'une étoile d'or. Il y avait moins de monde que la fois précédente. En arrivant au centre de la salle, cependant, Harry fut bousculé par une sorcière qui avait un kumquat coincé dans la narine gauche.
« Querelle de famille !»
ricana la sorcière blonde derrière son comptoir.
« Vous êtes la troisième aujourd'hui. Pathologie des sortilèges, 4e étage !»
Ils trouvèrent M. Weasley adossé contre ses oreillers, un plateau sur les genoux avec les reliefs de sa dinde de Noël. Un certain embarras se lisait sur son visage.
« Comment ça va, Arthur ?»
demanda Mrs. Weasley après que tout le monde l'eut salué en lui donnant ses cadeaux.
« Très, très, très bien »
assura-t-il d'un ton un peu trop chaleureux.
Tu n'as pas vu le guérisseur Smetwick par hasard ?»«
Non, »
dit Mrs. Weasley, l'air soupçonneux.
« Pourquoi ?»«
Oh, pour rien !»
répondit M. Weasley d'un ton dégagé en commençant à ouvrir ses cadeaux.
« Alors, tout le monde a passé une bonne journée. Qu'est-ce que vous avez eu pour Noël ?»« Oh, Harry, oh, c'est absolument magnifique !»
Il venait d'ouvrir le paquet que lui avait apporté Harry et qui contenait des tournevis et des fusils. Mrs. Weasley ne sembla pas entièrement satisfaite de la réponse de son mari. Tandis qu'il se penchait pour serrer la main de Harry, elle jeta un coup d'œil au bandage qu'on voyait sous sa chemise de nuit.
« Arthur, »
dit-elle, le ton aussi sec qu'un piège à souris,
« ton pansement a été changé. Pourquoi l'a-t-on changé un jour plus tôt que prévu, Arthur ? Il m'avait pourtant assuré qu'il ne le ferait que demain.
Quoi ?»
répondit M. Weasley. Il avait l'air effrayé et ramena ses couvertures sur sa poitrine.
« Non, 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 ce n'est rien, c'est je... »
Il sembla se dégonfler comme un ballon sous le regard perçant de Mrs. Weasley.
« Bon, ne te mets pas en colère, Molly, mais... Augustus P. a eu une idée. C'est un guérisseur stagiaire, un garçon adorable, très, très intéressé par la médecine d'appoint. Enfin, je veux dire, certains remèdes moldus. Ça s'appelle des points de suture, Molly. C'est très très efficace pour les blessures moldues. »
Mrs. Weasley laissa échapper un bruit de très mauvais augure, à mi-chemin entre le hurlement et le grognement. Lupin s'écarta du lit et alla voir le loup-garou qui n'avait aucun visiteur et contemplait avec envie la petite foule rassemblée autour de Monsieur Weasley. Bill marmonna qu'il allait se payer une tasse de thé, et Fred et George se levèrent d'un bond pour l'accompagner, un grand sourire aux lèvres.
« Est-ce que tu essaies de me faire comprendre par là ?
dit Mrs. Westley, sa voix augmentant de volume à chaque mot, et sans se rendre compte que tout le monde filait se mettre à l'abri, « que tu as fait l'idiot avec des remèdes de moldu !»«
T'es pas fait l'idiot, Molly chérie !»
répondit Monsieur Westley d'un ton implorant.
« C'était simplement... simplement quelque chose que Pi et moi nous voulions essayer. Seulement voilà, il se trouve que par malheur, ce genre de blessure, enfin, ça n'a pas marché aussi bien que nous l'avions espéré. »
« Ce qui veut dire ? » ?»«
Eh bien, j'ignore si tu sais ce que sont des points de suture. »«
Apparemment, ça signifie que tu as essayé de te recoudre la peau !»
répondit Mrs. Westley avec une sorte de rire sans joie.
« Mais enfin, Arthur ! Même toi, tu ne serais pas aussi stupide !»«
Je crois que je prendrais bien une tasse de thé, moi aussi, » dit Harry en se levant d'un bond.
Et Hermione, Ron et Ginny l'accompagnèrent en courant presque. Lorsque la porte de la salle se referma derrière eux, ils entendirent Mrs. Westley hurler
« Qu'est-ce que tu veux dire par « c'est l'idée générale » ?»
Typique de papa, commenta Ginny en hochant la tête tandis qu'il s'éloignait dans le couloir.
« Tes points de suture, je vous demande un peu. Tu sais, ça marche très bien sur les blessures non magiques, »
dit Hermione dans un souci d'impartialité.
« Il doit y avoir dans le venin de ce serpent quelque chose qui dissout les fils ou je ne sais quoi. » Je me demande où est le salon de thé.
Cinquième étage, répondit Harry qui se souvenait de l'écriteau affiché au-dessus du comptoir d'accueil. Ils suivirent le couloir, franchirent une double porte et se retrouvèrent dans un escalier branlant au mur duquel s'alignaient d'autres portraits de guérisseurs à l'allure féroce qui ne cessaient de les interpeller à mesure qu'ils montaient les marches, diagnostiquant d'étranges maladies et proposant d'horribles remèdes. Ron se sentit gravement insulté lorsqu'un sorcier moyenâgeux lui cria qu'il était atteint de toute évidence d'une forme inquiétante d'éclabouille.
« Et c'est quoi ça ? »
demanda-t-il avec colère, alors que le guérisseur le poursuivait de tableau en tableau, en bousculant leurs occupants légitimes.
« Il s'agit, mon jeune monsieur, d'une très grave affection de la peau qui vous laissera le teint grêlé et vous fera paraître encore plus abominable que vous n'êtes déjà.
« Et c'est moi que vous traitez d'abominable ?»
s'indigna Ron, les oreilles écarlates.
Le seul remède sera de prendre le foie d'un crapaud, de l'attacher bien serré autour de votre gorge et de vous plonger nu, à la pleine lune, dans un tonneau que vous avez rempli avec des yeux d'anguille.
Venez pas d'éclabouille !
Et pourtant, mon jeune monsieur, voyez ces marques disgracieuses sur votre figure !
« Ce sont des taches de rousseur !» répliqua Ron d'un ton furieux. « Maintenant rentrez dans votre tableau et laissez-moi tranquille !»
Il se tourna vers les autres qui s'efforçaient de rester impassibles. « On est à quel étage, Ify ?»«
Je crois que c'est le cinquième, »
dit Hermione. « Non, le quatrième, » rectifia Harry. « Encore un. » Mais lorsqu'il posa le pied sur le palier, il s'immobilisa soudain en regardant la petite fenêtre découpée dans la double porte qui marquait l'entrée du service de « pathologie des sortilèges ». Un homme les observait, le nez collé contre la vitre. Il avait des cheveux blonds ondulés, des yeux bleu clair et un large sourire vide qui découvrait des dents d'un blanc éclatant.
« Ça alors ?»
dit Ron en regardant l'homme à son tour.
« Oh, mon Dieu !»
s'exclama Hermione, la voix haletante.
« Professeur Lockhart !»
Leur ancien professeur de défense contre les forces du mal poussa la double porte et s'avança vers eux, vêtu d'une longue robe de chambre couleur lilas.
« Eh, bonjour !» dit-il. « J'imagine que vous voulez mon autographe hein ?»«
Il n'a pas beaucoup changé, » marmonna Harry à Ginny, qui eut un sourire.
« Comment allez-vous, professeur ?»
demanda Ron d'un air un peu coupable. C'était à cause de la baguette magique défectueuse de Ron que le professeur Lockhart avait perdu la mémoire et s'était retrouvé à Sainte-Mangouste. Mais comme l'accident avait eu lieu au moment où lui-même essayait d'effacer définitivement la mémoire de Ron et de Harry, celui-ci n'éprouvait pour lui qu'une compassion très limitée.
« Oh, je vais très très bien, merci, I !»
répondit Lockhart avec exubérance en sortant de sa poche une plume de paon qui avait connu des jours meilleurs.
« Combien d'autographes désirez-vous ? Maintenant, j'arrive à attacher les lettres entre elles, vous savez ?»«
Nous n'avons pas besoin d'autographes pour le moment, merci, » répondit Ron.
Les sourcils levés, il se tourna vers Harry qui demandait «
Professeur, est-il bien prudent que vous vous promeniez dans les couloirs? Vous devriez peut-être rentrer dans votre chambre. »
Le sourire de Lockhart s'effaça lentement pendant quelques instants et fixa Harry.
« Nous nous sommes déjà rencontrés, non ?»
dit-il.
« Oui, en effet, » répondit Harry. « Vous nous donniez des cours à Poudlard, vous vous souvenez ?»«
Des cours ?»
répéta Lockhart un peu déconcerté.
« Moi ? Vous êtes sûr ?»
Le sourire revint alors sur son visage si soudainement qu'il en avait quelque chose d'inquiétant.
« J'ai dû vous apprendre tout ce que vous savez, j'imagine. Alors, ces autographes, on n'a qu'à dire une douzaine. Vous les donnerez à vos amis, comme ça tout le monde sera content. »
Mais à cet instant, une tête apparut à la porte tout au bout du couloir et une voix appela.
« Gilles de Roy, vilain garçon, qu'est-ce que tu fais là-bas ? »
Une guérisseuse aux allures maternelles, une couronne de guirlandes dans les cheveux, s'approcha à grands pas en adressant à Harry et aux deux autres un sourire chaleureux.
« Oh, Gilles de Roy, tu as des visiteurs, mais c'est merveilleux. Et le jour de Noël en plus. Vous savez, il n'a jamais de visiteurs, le pauvre petit agneau. Et je comprends pas pourquoi, Il est tellement mignon. N'est-ce pas que tu es mignon ?»«
Je donne des autographes,
dit Lockhart à la guérisseuse avec un nouveau sourire étincelant.
Ils en veulent plein et ils insistent. J'espère au moins qu'on a suffisamment de photos. Oh non.
Écoutez-le,
dit la guérisseuse en le prenant par le bras, le visage radieux comme s'il s'agissait d'un enfant de 2 ans particulièrement précoce.
Il était assez connu il y a quelques années. On espère beaucoup que ce goût pour les autographes est un signe que sa mémoire commence à revenir. Vous voulez bien venir par là? Il est dans une salle spéciale, vous savez, toujours fermée à clé. Il a dû se glisser dehors quand j'ai apporté les cadeaux de Noël. D'habitude, la porte reste verrouillée. Non pas qu'il soit dangereux, mais, poursuivit-elle en baissant la voix, il est un peu dangereux pour lui-même, le pauvre. Il ne sait pas qui il est. Il va se promener au hasard et n'arrive plus à retrouver son chemin. C'est vraiment gentil à vous d'être venu le voir.
Dit Ron avec un geste inutile en direction de l'étage supérieur. En fait, on voulait simplement Mais la guérisseuse leur souriait d'un air confiant et la fin de la phrase de Ron, qui ajouta timidement prendre une tasse de thé, se transforma en un marmonnement inaudible. Harry, Ron et Hermione échangèrent un regard d'impuissance puis se résignèrent à suivre Lockhart et sa guérisseuse dans le couloir.
On va pas rester longtemps, dit Ron à voix basse.
La guérisseuse pointa sa baguette magique sur la porte de la salle Janus Tiquet et murmura « Allô, Mora ?» La porte s'ouvrit aussitôt et elle les conduisit à l'intérieur en continuant de tenir fermement Lockhart par le bras jusqu'à ce qu'elle l'ait installée dans un fauteuil près de son lit.
« C'est là que sont réunis nos résidents de longue durée, » expliqua-t-elle à voix basse. « Ceux qui sont atteints de maladies incurables consécutives à des sortilèges. » Oh, bien sûr, avec des potions intensives, quelques charmes thérapeutiques et un peu de chance, nous arrivons à obtenir des progrès. Gilles de Roy semble reprendre un peu conscience de lui-même et nous avons constaté une très nette amélioration chez Monsieur Morose. Il retrouve peu à peu l'usage de la parole, bien que nous ne comprenions pas la langue qu'il utilise. Bon, je vais continuer de distribuer les cadeaux. Je vous laisse bavarder tranquillement.
Harry jeta un coup d'œil autour de lui. Des signes manifestes indiquaient que la salle était en effet réservée à des résidents permanents. Les patients avaient beaucoup plus d'effets personnels autour de leur lit que dans le service de M. Wesley. Le mur au-dessus du lit de Lockhart, par exemple, était tapissé de photos de lui qui adressaient aux nouveaux venus des gestes de la main et des sourires aux dents étincelantes. La plupart des portraits étaient dédicacés à lui-même, dans une écriture enfantine aux lettres séparées. Dès que sa guérisseuse l'eut déposé dans son fauteuil, Gilles de Roy prit une pile de photos et une plume et se mit à les signer fébrilement.
« Oh, vous n'aurez qu'à les ranger dans les enveloppes !»
dit-il à Ginny en lui jetant les photos sur les genoux à mesure qu'il les signait.
« On ne m'a pas oublié, vous savez, et oh non, je reçois toujours beaucoup de courriers de mes fans. Gladys Cour de Niaise, par exemple, m'écrit toutes les semaines. J'aimerais simplement savoir pourquoi. »
Il s'interrompit, l'air un peu perdu, puis leur adressa un nouveau sourire rayonnant et recommença à signer avec une vigueur renouvelée.
« Je pense que c'est à cause de mon physique avantageux. »
Un sorcier au teint cireux, le visage lugubre, était allongé dans le lit d'en face, les yeux fixés au plafond. Il marmonnait tout seul et semblait ne pas se rendre compte de ce qui se passait autour de lui. Deux lits plus loin, une femme avait la tête entièrement recouverte d'une épaisse fourrure. Harry se souvenait qu'Hermione avait subi le même phénomène au cours de leur deuxième année, mais heureusement, dans son cas, les effets n'avaient pas été permanents. Tout au bout de la salle, deux lits étaient entourés de rideaux à fleurs pour donner un peu d'intimité aux patients et à leurs visiteurs.
« Voilà pour vous, Agnès !» dit la guérisseuse d'un ton joyeux, en donnant quelques cadeaux à la femme au visage velu. « Vous voyez, on ne vous oublie pas. Et votre fils a envoyé un hibou pour dire qu'il viendra vous voir ce soir. C'est bien, non ?»
Agnès aboya bruyamment à plusieurs reprises. La guérisseuse se dirigea ensuite vers l'homme qui marmonnait tout seul.
« Regardez, Broderick, on vous a envoyé une plante en pot et un très joli calendrier avec un hippogriffe différent pour chaque mois. Ça va égayer un peu le décor, non ?»
Elle posa sur le meuble de chevet une plante assez laide, dotée de longs tentacules qui pendaient de toutes parts, et fixa le calendrier au mur d'un coup de baguette magique.
« Et puis... Ah, monsieur Londubat, vous partez déjà !»
Harry tourna brusquement la tête. Les rideaux avaient été écartés devant les deux lits situés à l'autre bout de la salle, et deux visiteurs s'avançaient dans l'allée centrale. Une sorcière âgée, à l'aspect redoutable, qui portait une longue robe verte, une fourrure de renard mangée au mythe et un chapeau orné d'un vautour empaillé et, traînant derrière elle, l'air complètement déprimé, Neville. En un éclair, Harry comprit qui devaient être les deux patients du fond de la salle. Il chercha frénétiquement des yeux quelque chose qui pourrait distraire les autres afin que Neville ait le temps de sortir sans être vu, mais Ron avait également levé la tête en entendant le nom de Londubat et, avant que Harry ait pu l'arrêter, il s'écria
« Neville !»
Neville sursauta et courba le dos comme si une balle de pistolet venait de le manquer de peu.
« Fais-nous, Neville !» dit Ron d'une voix claironnante en se levant. « Regarde, le quart est ici, et toi, qu'est-ce que tu venais voir ?»«
Ce sont des amis à toi, mon chéri !»
demanda la grand-mère de Neville d'un ton aimable en se dirigeant vers eux. Apparemment, Neville aurait préféré se trouver n'importe où dans le monde pourvu que ce soit loin d'ici. Son visage joufflu se teinta peu à peu d'une couleur violette et il évita avec soin de croiser leurs regards.
« Ah oui !»
dit sa grand-mère. Elle fixa sur Harry des yeux flamboyants et lui tendit une main desséchée en forme de serre.
« Oui, je sais qui vous êtes, bien sûr. Neville me dit toujours le plus grand bien de vous. »
« Merci, » répondit Harry en lui serrant la main. Neville ne le regardait pas, les yeux baissés sur ses chaussures, le teint de plus en plus violacé.
« Et vous deux, vous êtes les Weasley ?»
poursuivit Mrs. Londubat en tendant la main d'un geste royal à Ron, puis à Ginny.
« Oui, je connais vos parents. Oh, pas très bien, sans doute, mais ce sont des gens charmants. » Et vous, vous devez être Hermione Granger.
Et Hermione lui serra la main, l'air surprise que Mrs. Londubat connaisse son nom.
Oui, Neville m'a parlé de vous. Vous l'avez aidé à se tirer de quelques mauvais pas, si j'ai bien compris. Oh, c'est un gentil garçon,
dit-elle. Ses yeux s'abaissèrent de chaque côté de son nez osseux et elle observa Neville d'un regard sévère comme si elle l'évaluait.
« Mais il n'a pas le talent de son père, il faut bien le reconnaître. »
Elle montra les deux lits du bout de la salle d'un mouvement de tête si brusque que le vautour empaillé de son chapeau se mit à osciller dangereusement.
« Quoi ?»
dit Ron abasourdi. Harry aurait voulu lui écraser le pied, mais il était plus difficile de le faire discrètement quand on portait un jean plutôt qu'une robe de sorcier.
« C'est ton père qui est là-bas ?»
« Mais qu'est-ce que ça signifie ?»
s'exclama sèchement Mrs. Londubat.
« Tu n'as donc pas parlé de tes parents à tes amis, Neville ?»
Neville prit une profonde inspiration, leva les yeux au plafond et hocha la tête. Harry ne se souvenait pas d'avoir jamais ressenti une telle gêne pour quelqu'un,
mais il ne voyait aucun moyen de sortir Neville de cette situation.
« Il n'y a pas de quoi avoir honte !» poursuivit Mrs. Londubat avec colère. « Tu devrais, au contraire, être fier, Neville. Tu m'entends ? Fier ! Ils n'ont pas sacrifié leur santé et leur équilibre mental pour que leur fils unique ait honte d'eux !»«
Je n'ai pas honte !»
répondit Neville d'une toute petite voix en évitant toujours de regarder les autres. Ron s'était dressé sur la pointe des pieds pour essayer de voir les occupants des deux lits.
« Eh bien, tu as une drôle de façon de le montrer !»
répliqua Mrs. Londubat.
« Mon fils et son épouse »
continua-t-elle en se tournant d'un air hautain vers Harry et les trois autres.
« ont été torturés jusqu'à en perdre la raison par les partisans de vous savez qui !»
D'un même mouvement, Hermione et Ginny plaquèrent leurs mains contre leur bouche. Ron cessa de tendre le cou pour tenter d'apercevoir les parents de Neville et parut mortifié.
« C'était des aurores, voyez-vous, »
reprit Mrs. Londubat,
« et très respectés dans la communauté des sorciers, très doués, tous les deux, je... Oui, oui, Alice, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a ?»
La mère de Neville, vêtue de sa chemise de nuit, s'était approchée à petits pas. Elle n'avait plus cet air joyeux et joufflu qu'on voyait sur la vieille photo des membres de l'ordre que Maugrey avait montré à Harry. Son visage à présent était maigre et usé, ses yeux semblaient trop grands et ses cheveux devenus blancs étaient fins et ternes comme ceux d'un mort. Elle ne semblait pas vouloir parler, ou peut-être en était-elle incapable, mais elle fit un geste timide vers Neville pour lui donner quelque chose qu'elle tenait à la main.
« Encore !» dit Mrs. Londubat un peu lasse. « Très bien, Alice, ma chérie, très bien. Neville, je ne sais pas ce que c'est, mais prends-le. »
Neville avait déjà tendu la main dans laquelle sa mère laissa tomber un papier vide de ballon-gomme du bullard.
« C'est très gentil, ma chérie !»
dit Mrs. Londubat d'une voix faussement enjouée en tapotant l'épaule de sa belle-fille.
« Merci, maman !»
dit Neville à voix basse. D'un pas chancelant, sa mère retourna vers le fond de la salle en chantonnant pour elle-même. Cette fois, Neville regarda les autres d'un air provoquant, comme s'il les mettait au défi de rire. Mais Harry ne pensait pas avoir jamais rien vu de moins drôle au cours de sa vie.
« Bon, il est temps de rentrer !»
soupira Mrs. Londubat en enfilant de longs gants verts.
« J'ai été très heureuse de faire votre connaissance à tous. Neville, va mettre ce papier dans la corbeille. Elle a dû t'en donner déjà suffisamment pour tapisser les murs de ta chambre. »
Mais lorsqu'ils sortirent, Harry était certain d'avoir vu Neville glisser le papier dans sa poche. La porte se referma sur eux.
« Je ne savais pas, »
dit Hermione, les larmes aux yeux.
« Moi non plus, »
ajouta Ron d'une voix rauque.
« Ni moi, »
murmura Ginny. Ils se tournèrent vers Harry.
« Moi, je le savais, »
confessa-t-il d'un air sombre. « Dumbledore me l'avait dit, mais il m'avait fait promettre de ne le répéter à personne. » C'est pour ça que Bellatrix Lestrange a été envoyée à Azkaban, parce qu'elle a fait usage du sortilège de Loris sur les parents de Neville jusqu'à ce qu'ils perdent la raison.
« Bellatrix Lestrange a fait ça ?»
murmura Hermione horrifiée.
« Cette femme dont créature garde la photo dans sa tanière ?»
Il y eut un long silence qui fut interrompu par la voix courroucée de Lockhart.
« Dites, vous pourriez vous intéresser à mes autographes, hein, ce n'est pas pour rien que j'ai appris à attacher les lettres hein, !»